Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Coup de projecteur sur les médecines complémentaires et alternatives. Différentes dénominations selon que l'on se positionne pour ou contre. Médecine douce, pratique de soins non conventionnels, pratique hétérodoxe. Homéopathie, acupuncture, hypnose, ostéopathie, phytothérapie, des pratiques diverses, difficiles à cataloguer et qui recueillent l'assentiment d'une large majorité de Français, mais qui peuvent éveiller des soupçons, générer des craintes et provoquer des tensions entre soignants et patients. Mais comment évaluer leur efficacité? La médecine basée sur les preuves suffit-elle à mesurer leur utilité? Ces pratiques ont-elles vraiment leur place dans les services hospitaliers et on appuie des médecins de ville? Quelle place dans l'arsenal de la médecine préventive? Et puis comment prévenir et détecter les pratiques sectaires, charlatanes ou farfelues. Pour nous aider à y voir plus clair, le professeur Laurence Verneuil, les docteurs Patrick Gignès et Mathieu Van Dessel et la psychologue clinicienne Véronique Suissa. Quel regard portez-vous sur les médecines complémentaires? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de France Inter. Vous avez vu, je suis bien réveillé, Baptiste Beaulieu, ce matin. Vous êtes médecin et romancier, on retrouve évidemment votre chronique vers 11h25.
Oui, je vais faire une petite déclaration d'amitié à un certain genre de patient.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Pour nous aider à y voir plus clair ce matin, Véronique Suissa, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes l'auteur d'une thèse de doctorat sur les médecines complémentaires et alternatives et vous co-dirigez chez Michalon Médecine complémentaire et alternative pour ou contre. Bonjour professeur Laurence Verneuil.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en médecine qualitative à l'INSERM. Qu'est-ce que la médecine qualitative en quelques mots?
En quelques mots. Alors la recherche qualitative en quelques mots, c'est finalement une recherche qui va s'intéresser et évaluer l'expérience vécue des patients. C'est une représentation du patient et non du médecin à travers ce qu'on appelle l'evidence-based medicine ou médecine fondée sur les preuves.
Bonjour docteur Patrick Gignès.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Montpellier. Bonjour Mathieu Van Dessel.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin généraliste, maître de stage à l'université Paris Diderot et vous aviez co-signé avec 123 médecins une tribune retentissante dans le Figaro en 2018 contre l'utilisation des médecines alternatives. C'est bien ça?
Tout à fait.
Véronique Suissa, première question pour préciser les termes du débat. Qu'appelle-t-on médecine complémentaire et alternative? Toute tentative de classification se révèle difficile tant les pratiques sont multiples et hétérogènes.
Complètement. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est dire qu'il n'y a pas de consensus actuellement en termes de définition. On va retrouver des définitions, mais une multitude. Il n'y a pas non plus une classification de référence. Il en existe là encore, mais pareil, il en existe une multitude de faits. Selon la classification à laquelle on va se référer, une pratique va être ou non considérée comme une médecine complémentaire et alternative. Ensuite, il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce qu'on appelle médecine conventionnelle et non conventionnelle. C'est un point qui apparaît complexe, notamment de par un mouvement d'intégration de ces pratiques dans notre système de soins. L'exemple le plus illustratif, c'est celui de l'acupuncture, qui repose sur des fondements dits non scientifiques, non reconnus, des principes énergétiques. Et pourtant, c'est une pratique qui est actuellement intégrée et dispensée par des médecins, médecine conventionnelle ou non conventionnelle. Et ensuite, il y a un amalgame terminologique, parce qu'on les appelle indistinctement médecine douce, parallèle, holistique, non conventionnelle, complémentaire, alternative, etc. Et en fonction du terme qu'on va utiliser, ça va ramener à un ensemble de représentations.
Oui. Et la Haute Autorité de Santé parle de thérapie non médicamenteuse. Le ministère de la Santé et des Solidarités évoque des pratiques de soins non conventionnels. Et l'OMS étudie de son côté les médecines traditionnelles. Mathieu Van Dessel, vous positionnez de quelle façon sur les dénominations des médecines complémentaires alternatives?
Disons que nous, médecins, dans le code de déontologie, on a l'article 39 qui parle des pratiques illusoires. Donc ça, c'est ce qui s'appelle aussi le charlatanisme.
Donc, est-ce que, pour être très clair, est-ce que vous considérez comme du charlatanisme toutes les pratiques, qu'il s'agisse de la méditation de pleine conscience, qui est par exemple pratiquée dans des services psychiatriques, dans des hôpitaux publics, ou bien l'hypnose, qui a fait son entrée dans certains blocs opératoires? Est-ce que pour vous, il s'agit de charlatanisme et de médecine illusoire?
Il y a un principe qui est très important dans la pratique médicale, c'est le consentement libre et éclairé du patient. La plupart du temps, quand un patient va chercher une pratique de soins non conventionnels, on part du principe qu'il y croit, il va même pas avoir d'informations au sujet du fonctionnement de la chose. Typiquement, quelqu'un qui va chez son homéopathe, il va pas lui demander comment fonctionne l'homéopathie. Et là, il y a quelque chose qui est un petit peu gênant, effectivement.
Dans votre fameuse tribune du Figaro, vous utilisez, pas vous seulement, mais vos autres collègues, 123 praticiens, des termes forts pour évoquer les médecines complémentaires comme l'homéopathie. Vous parlez de tromperie, de charlatanisme et même de fake médecine.
On a juste rappelé nos obligations déontologiques. Et effectivement, le terme de fake médecine, nous semblait un petit peu rigolo à utiliser et puis impactant, quoi. C'est vrai que c'est parlant.
Professeur Laurence Verneuil.
Oui, simplement, vous parlez de la question du consentement libre et éclairé qui semblerait exclu dans les médecines complémentaires, mais on peut aussi se poser la question dans la médecine conventionnelle. Étant professeur de médecine, ayant une expérience dans les hôpitaux, je ne suis pas si sûre que ce consentement libre et éclairé soit délivré systématiquement dans la médecine conventionnelle. Donc ça me semble pas être tout à fait un argument pour en effet discriminer les médecines complémentaires. Il y a peut-être d'autres terrains qui le permettent.
Oui, alors effectivement, il y a d'autres arguments, c'est effectivement le niveau de preuve. Quand on pratique la médecine, ce qui est très difficile, c'est d'aller au-delà de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est l'effet contextuel, c'est un effet qui est présent dans toute action en vue de se soigner, c'est-à-dire que dès qu'on fait une action pour se soigner, il y a un effet placebo, que ce soit même dans les médicaments classiques et conventionnels, il y a aussi un effet placebo.
Véronique Suissa.
Oui, il y a des questions, je pense, de départ à se poser sur la question de l'évaluation. Notamment, est-ce qu'on peut finalement s'appuyer sur une évaluation strictement centrée sur des faits objectifs lorsque l'objet d'évaluation, ici les médecines complémentaires et alternatives, fait appel finalement à une variété de dimensions subjectives? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle concerne le soin. Ce soin, actuellement, est-ce qu'il peut être appréhendé uniquement comme un acte exclusivement curatif au cœur d'une médecine qui aujourd'hui dit accompagner l'ensemble des besoins individuels, qu'ils soient physiques, effectivement, mais aussi psychiques, sociaux et spirituels? Et enfin, la question de l'efficacité doit-elle finalement impliquer des indicateurs dits standards dans un moment de pleine reconnaissance collective, finalement, de l'expérience et de l'expertise patient?
Laurence Verneuil.
Oui, alors là, je pense que c'est l'enjeu essentiel du débat. Finalement, pour se poser la question de l'intégrité et du sens des médecines complémentaires, l'enjeu, c'est leur évaluation. Et jusqu'à présent, il me semble que malheureusement, elles n'ont été évaluées que sous le prisme de la médecine basée sur les preuves. Or, en effet, ce n'est pas possible. Le référentiel théorique de l'EBM ne permet pas d'évaluer ces médecines. C'est en effet la recherche qualitative dont on parlait au début qui va permettre d'évaluer une expérience vécue. Et cette recherche qualitative devrait être articulée à la médecine quantitative pour des études mixtes.
Le regard du docteur Patrick Gignès, je le rappelle, vous êtes le responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Montpellier, où vous utilisez certaines médecines complémentaires alternatives jugées par Mathieu Van Dessel comme une médecine illusoire, voire du charlatanisme. Quel regard vous portez sur ce que vient de nous dire Mathieu Van Dessel ?
Je porte un regard anthropologique. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'on a fait un test sur 100 patients et sur 100 professionnels. Et sur 100 patients, il y en a 25 qui croient à une médecine qui comprend des aspects magiques, ou subjectifs, ou relationnels exclusivement. Comme devant ce fait-là, on a intégré depuis 40 ans des médecines dont on peut contrôler le fonctionnement, c'est-à-dire des professionnels qu'on a en réseau autour de notre centre de Montpellier, et même intégrer aussi une préparation à ce type d'approche par nos infirmières, pour l'hypnose, pour des massages particuliers, pour la réflexothérapie, pour l'art-thérapie, la musicothérapie. Ça, c'est un aspect objectif, c'est-à-dire de façon pragmatique, on a dit pour éviter les dérives, on a intégré ce réseau intra-hospitalier et extra-hospitalier. Ça a permis d'éviter les dérives, mais je disais dans l'étude que sans professionnels interrogés sur ces pratiques, il y en avait 22 qui les cautionnaient aussi. C'est-à-dire que c'est un fait sociologique, ça. Et l'esprit humain a toujours un côté magique, et donc il faut le prendre en charge et le canaliser.
Mathieu Van Dessel. Je suis tout à fait d'accord sur le besoin de croyance de l'esprit humain, évidemment, même que notre cerveau est câblé pour croire. Pourquoi 400 médecines complémentaires alternatives ou aux pratiques de soins conventionnels, pourquoi pas 50 000, puisqu'effectivement, on peut faire un soin à la pleine lune, parce que si on croit que ça marche mieux à la pleine lune, on va attendre la pleine lune, etc. Chacun y croit. Et pourquoi pas 9 milliards? Moi, je pense que chaque être humain à sa propre en soi son propre effet placebo et il n'y a pas besoin de passer par des pratiques entre guillemets consuméristes, notamment le cas d'école c'est l'homéopathie évidemment où là on va aller consommer des granules, on va les acheter chez le pharmacien.
Mais Mathieu Van Dessel, est-ce que vous rejetez toutes les approches, même celles qui font consensus, je pense à l'hypnose thérapeutique par exemple, est-ce que par exemple vous militez pour l'exclusion du champ médical de ce type de pratique?
L'hypnose thérapeutique a des indications, mais là en l'occurrence c'est quelque chose qui va agir directement sur la psyché humaine, hein, en l'occurrence sur l'effet placebo, sur l'effet psychomodulateur, ça marche.
Si on va plus loin dans le raisonnement, on peut se poser quand même la question des critères finalement de légitimation, soit d'une thérapie dite non médicamenteuse, soit d'une médecine complémentaire au sein de notre médecine. Parce que quand on analyse la situation actuelle sur le terrain, on observe finalement qu'il y a quand même une acceptation collective de pratiques n'ayant pas fait forcément la preuve d'une efficacité scientifique à proprement parler. Je pense par exemple à la présence des religieux, au soutien spirituel, aux interventions des bénévoles, aux ateliers en tout genre. Ces pratiques d'ailleurs dans les centres de soins, elles sont souvent évaluées par de simples questionnaires en interne alors que des médecines complémentaires sont évaluées de façon rigoureuse et sont d'emblée rejetées. Donc ça pose des questions plutôt idéologiques.
Professeur Laurence Verneuil.
Oui, je ne crois pas qu'il faille parler de non-scientifique. La recherche qualitative est strictement une approche scientifique au même titre que la médecine basée sur les preuves. Simplement, nous ne sommes pas dans le même paradigme. On change finalement le regard sur la réalité. Et au lieu de dire, comme dans l'EBM, on est...
Rappelez l'EBM.
L'Evidence-Based Medicine, la médecine basée sur les preuves. Au lieu de faire croire qu'on est dans une objectivité qui n'existe pas, la recherche qualitative assume la subjectivité et l'intersubjectivité. Et il y a, excusez-moi, une co-construction de la connaissance du savoir.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai fait ma thèse avec une méthodologie qualitative, donc je sais un petit peu ce que c'est quand même. L'objectivité existe quand même, néanmoins. Donc, c'est pas deux choses qui sont antagonistes. Hein. On peut évaluer les choses à la fois sous un angle objectif et evidence-based medicine, et sous un angle qualitatif sur le vécu, le ressenti, etc. Il
n'y
a pas de problème. Après, le truc, c'est qu'on est quand même... Enfin, c'est quand même difficile...
Qu'est-ce que l'objectivité? Enfin, un chercheur confronté même à des sciences fondamentales, devant un microscope, il a toujours son propre regard qu'il porte sur les choses. Le chercheur est en interaction avec l'objet qu'il regarde.
Et je rappelle, Laurence Verneuil, que vous avez été chercheuse en oncologie et
absolument,
en dermatologie.
J'ai fait des sciences fondamentales et de l'oncogénèse.
Très bien.
Patrick Gignès.
De fait, on a objectivé aussi des améliorations de ces médecines complémentaires. Par exemple, l'activité physique adaptée, qui est entre la kinésithérapie, entre le sport, entre le mouvement. On ne peut pas dire qu'elle soit validée intrinsèquement. Mais quand on fait fonctionner avec le mouvement des patientes qui ont eu un cancer du sein, on a 30% de moins de récidives du cancer du sein. Donc ça peut être un élément quantitatif et qualitatif à évaluer.
Et justement, effectivement, il faut les évaluer, hein, ces médecines complémentaires alternatives. Mais quand elles dépassent un effet qui est strictement contextuel, on les intègre à la médecine. Ça devient la médecine allopathique, si vous voulez, avec le mot allopathique, hein, qui est un petit peu connoté.
Baptiste Beaulieu.
Oui, j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux oppositions, mais on ne devrait pas s'opposer, parce qu'au final, en fait, il y a juste une vision déontologiste qui est de dire on ment pas aux patients, on dit ce que de la science nous dit actuellement de l'effet de tel ou tel produit, et une vision plus conséquentialiste, peu importe, du moment que le patient va mieux. Et je pense que, enfin, on ne devrait pas s'opposer parce que c'est deux visions qui sont au final là pour soit pour défendre l'information libre et éclairée du patient, soit au contraire défendre le mieux-être quel que soit le moyen d'y accéder du patient.
Voilà, effectivement, on ne s'oppose pas forcément. Néanmoins, la médecine, on va dire, allopathique, n'est pas, comment dirais-je, mainstream. Ça, c'est pas ce que celle qu'on voit, celle qui a le vent en poupe, c'est la médecine, les médecines douces. On les voit dans les magazines. On voit, tous les gros titres ne font que parler en permanence de médecine douce qui serait, entre guillemets, mieux dans la tête des gens. En tout cas, l'image,
Je lis le supplément du Monde Santé et Médecine ou celui du Figaro, le lundi, voilà, ces suppléments-là, grand public, ne parlent pas que des médecines complémentaires alternatives. Mathieu Van Dessel, soyons un peu honnêtes.
Et on a tendance aussi à segmenter les choses, notamment la question de l'impact, à la fois en termes de bénéfices, de risques, de dérives. Finalement, on est dans une espèce de discours où tout est bien, où tout est dangereux. Et je pense qu'il faut s'extraire de cette dichotomie et aller un petit peu dans la nuance et aller creuser aussi les facteurs en jeu, notamment celle de la formation des praticiens, qui c'est pas forcément la pratique qui est en cause, c'est aussi la façon dont elle est dispensée.
Oui, justement à propos de cette pratique et de son enseignement, je suis vice-présidente du CUMIC, qui est le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire. Donc en fait, c'est une entité au même titre que n'importe quelle spécialité médicale qui a été intégrés aux différents collèges de médecine. Et désormais, dans les prochaines études des étudiants en médecine, il y aura en effet un pan sur la médecine intégrative.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la médecine intégrative, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus adapté. C'est que finalement, on n'est justement pas dans l'opposition entre la médecine quantitative et conventionnelle et complémentaire, mais finalement, on articule l'allopathie avec les médecines complémentaires. Et ça me semble être le schéma le plus intelligent qui est développé depuis des années, par exemple aux États-Unis.
Enfin, il y a tellement de choses à apprendre en médecine, c'est un sujet tellement énorme. On passe déjà 10 ans de notre vie à apprendre énormément de choses. Après, on passe 10 autres années à apprendre, à avoir de l'expérience et au contact des patients, à se transformer soi-même, à améliorer sa bienveillance, etc. Donc, à devenir plus empathique. C'est un travail, c'est un champ énorme. Si en plus, on doit s'ajouter 400 médecines complémentaires alternatives, voire 50 000, voire 9 milliards, on n'est pas sorti de l'auberge.
Mais il y a un problème, c'est que les patients, ils sont en demande. Mmh. Et ça, on peut pas le nier.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre débat au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Vous étiez 2 millions à nous podcaster au mois d'octobre. C'est notre directeur du numérique, Erwan Gaucher, qui m'a communiqué le chiffre il y a quelques instants. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier chaleureusement. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier et je vous propose d'écouter un titre de 1985. Cette année-là naissait le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton et disparaissait le réalisateur américain Henri Hathaway. Belle journée à l'écoute de France Inter. Ça vous rappelle plein de souvenirs, ça, Baptiste Beaulieu, hein, Eurythmics, hein. Vous n'étiez pas né en plus.
Non. Hein.
Si vous avez l'intention de m'hypnotiser, docteur, j'ai bien peur que vous ne perdiez votre temps, vous savez.
Grand bien vous fasse.
Regardez la roue tourner.
Sur France Inter.
10h27, débat ce matin autour des médecines complémentaires et alternatives que certains appellent médecine douce, d'autres pratiques hétérodoxes, pour ne pas dire plus. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
À Paris, au cœur du plus grand hôpital d'Europe, à la Pitié-Salpêtrière, il n'est pas rare depuis 2011 d'entendre parler chinois.
C'est les coupes.
Dans le jardin de l'hôpital, le docteur Liu propose des séances de qigong thérapeutiques à des patients atteints de cancer. Des patients qui, comme Françoise, ont été orientés vers cette pratique par leur médecin.
Ce qigong, ça a été vraiment comme un peu une bouée de sauvetage. Vraiment quelque chose qui m'a permis de ressortir la tête de l'eau et de reprendre espoir, surtout. Reprendre des forces et reprendre le courage de me battre contre la maladie.
Si, si.
Je me suis réappropriée un petit peu une partie de ma vie, en fait, et pouvoir décider d'être acteur dans le traitement, participer au traitement, et pas juste dépendre des autres.
Extrait du documentaire, d'un documentaire diffusé sur France 5 en septembre 2017 dans l'émission Enquête de santé. On l'entend à l'image de cette patiente. De plus en plus de Français demandent une médecine plus humaine avec une prise en charge globale du patient, professeur Laurence Verneuil.
Oui, c'est un enjeu majeur. Mon voisin tout à l'heure évoquait la quantité de finalement de connaissances qu'on doit absorber en médecine, mais il y a plein de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être dans nos têtes, et ce qu'on oublie, c'est la question de la relation et de l'écoute du patient. Je crois qu'en effet, si la médecine conventionnelle était plus à l'écoute, le déploiement des médecines complémentaires ne serait peut-être pas ce qu'il est. Elles sont en effet une manière aussi de compenser ce manque d'écoute dans la médecine conventionnelle. Après, elles sont aussi un levier qui va donner aux patients le moyen d'être acteur de ses soins et de quitter le modèle paternaliste qu'on nous enseigne.
Docteur Patrick Géniès.
Oui, c'est vrai, il faut pas se disputer, parce que le problème restera constant durant des années. J'ai écrit un article qui s'appelait « Du double aveugle à la simple clairvoyance », dans une revue scientifique, pour montrer que, et pour défendre aussi Mathieu de Varennes-Dessel, qui est généraliste, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance du médecin généraliste. Donc il est obligé de faire tous les 10 minutes un acte, avec une pression énorme. Et donc c'est dur pour lui de voir que pour 25 euros, il fait un travail énorme sociologique, énorme de prévention, énorme de pour canaliser la population et la santé des gens, et qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas toujours des formations, pas toujours une validation, et qui vont s'installer à 60 euros sans déclaration, et qui vont prendre des clients et une médiatisation. Donc je le défends pour ça, parce que j'ai été 3 ans généraliste, et c'est très dur de voir qu'il n'y a aucun retour en image, alors que le vrai garde-fou, c'est le généraliste. Alors qu'il faut qu'il soit ouvert, peut-être que Mathieu, il est ouvert aussi, pour avoir aussi, ce qu'a dit la dame au témoignage, la possibilité d'offrir à quelqu'un une voie de secours qui est qualitativement efficace, mais quantitativement pas prouvée. Secours, là, dans le reportage, à l'hôpital, donc gratuit. Je pense. Tandis qu'en privé, il y a beaucoup de possibles charlatans vrais ou charlatans putatifs.
Sur l'écoute, ouais, sur la relation médecin-malade, enfin, les choses changent à grande vitesse. Moi, j'ai fait mon internat maintenant il y a une dizaine d'années, et déjà, on parlait de Michael Balint, et puis on avait des groupes Balint à la fac.
Expliquez-nous ce que c'est. C'est quoi exactement?
Alors, le docteur Balint, c'était l'un des premiers à avoir analysé la relation médecin-malade en tant que améliorant le soin. Pour faire court. Hein.
Voilà. Véronique Suissa.
Alors, là, je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que l'écoute change. Malheureusement, on est encore dans une médecine très dure, très technicienne, et d'ailleurs cette réalité fait que de nombreux patients s'orientent vers ces pratiques. C'est une des raisons. Dans ma thèse de doctorat, justement, j'ai essayé de m'extraire de cette dynamique ou bénéfice ou risque et d'aller entre les bénéfices, les risques et les dérives, et on se rend bien compte que la question des dérives, elle est aussi liée à ce manque d'écoute des médecins. On va chercher autre chose parce qu'on ne se sent pas écouté par son médecin.
Oui, je rebondis totalement sur ce que vous dites, et c'est en effet l'articulation, le point essentiel de l'articulation patient-malade. Et malheureusement, c'est peu et pas assez enseigné dans les facultés de médecine.
Juste une petite anecdote personnelle, parce que je comprends aussi Mathieu. J'ai eu une patiente en fin de vie et j'allais la voir une fois par semaine pour évaluer son traitement antidouleur et à me poser des questions. Et je voyais son état se dégrader. Et un jour, je la vois et elle se préparait des blettes et du soja et elle ne mangeait plus que ça parce qu'un naturopathe qu'elle avait payé 150 euros de l'heure lui avait dit qu'elle devait arrêter tous les sucres. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire ça a duré 3 mois, elle a mangé des blettes, du soja, elle n'a pas eu droit, elle adorait les oranges, elle n'a pas pu manger sa dernière orange parce qu'un type qu'elle payait 150 euros de l'heure lui disait « vous allez guérir du cancer si vous arrêtez les sucres ». Et en tant que médecin généraliste, quand on y va toutes les semaines, on sent un sentiment de colère et de révolte, je vous assure, qui est vraiment...
Oui, et puis d'autant plus que ça touche quelqu'un de la famille, par exemple, là on est encore plus en colère. Ouais. Sur l'écoute, juste comme ça, vous avez des sources scientifiques, puisque pour le coup c'est quantifiable, l'écoute du patient. Par exemple, vous parlez de 23 secondes, j'imagine le temps au bout duquel un médecin généraliste va couper son interlocuteur. En fait, vous savez d'où ça vient? C'est une étude qui a été faite aux États-Unis en 1999 sur 200 consultations dans le Midwest américain. Donc très difficilement comparable à ce qui se passe actuellement aujourd'hui en 2019 en France. Si vous avez des sources actuellement en France en 2019, je suis preneur.
Alors moi je vais donner l'exemple, c'est une illustration bien sûr de ma thèse de doctorat, qui est une étude qualitative aussi essentiellement, et qui fait justement ressortir certains processus, et on se rend compte que l'ensemble des utilisateurs de ces pratiques dénoncent ce manque d'écoute. Et d'ailleurs, ça participe de leur recours. Je ne me sens pas écoutée. J'ai parlé d'ailleurs à mon oncologue de ces recours, il s'est fichu de moi, etc. Donc je ne lui parle même pas de ces pratiques et ça participe aussi des risques.
C'est effectivement très difficile dans une consultation d'arriver à écouter entre guillemets le patient, parce que le patient, lui, il attend quelque chose. Nous, en tant que professionnels de santé, dans notre tête, il y a des équations qui se passent. Enfin, on pense à plein de choses qui ne sont pas la chose à laquelle pense le patient.
Je voudrais juste reprendre, c'est Mathieu votre prénom ?
Oui.
La question d'écouter entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas de guillemets. Hein. L'essentiel, alors, c'est cette posture. Moi aussi, j'ai un algorithme dans la tête. Mais si je n'écoute pas, en effet, ce que le patient ressent, ce que le patient a à dire, je serai dans une mauvaise posture d'analyse pour faire un diagnostic pertinent.
J'ai quand même remarqué que les patients me trouvaient beaucoup plus à l'écoute quand je leur donnais ce qu'ils attendaient. Et même si c'était pas bien pour leur santé, quoi.
Une petite illustration de terrain. J'ai exercé 8 ans en service oncologie gériatrie polyvalent et ça va être très très court. Le médecin qui devait annoncer un diagnostic, je ne vais pas rentrer dans les détails, il se trouve que j'étais dans la chambre du patient à ce moment-là. Je la fais courte, mais vous m'avez pas compris, monsieur. Vous avez un cancer. Ça va être de plus en plus grave. C'est comme ça. Il va falloir penser.
Ça, c'est la violence.
Voilà. Donc c'est violent et ça, je vois pas où il écoute.
Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous avez co-dirigé l'ouvrage Médecine complémentaire et alternative, pour ou contre. Alors en décembre 2018, une étude menée par le cabinet Odoxa et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers a permis de mesurer le rapport des Français avec ces pratiques. Confiance globale des Français envers les médecines complémentaires et alternatives. 68% des Français croient au bienfait de l'acupuncture, de l'hypnose, de la méditation de pleine conscience, de l'ostéopathie, de la phytothérapie et de la sophrologie. Et en comparaison, les professionnels de santé interrogés sont 66% du même avis. En revanche, les médecins ne sont que 33% à croire à ces médecines complémentaires alternatives. Comment expliquer ce fossé, Serge Guérin, entre les Français et les médecins ?
Alors, déjà, le terme que vous avez utilisé est très très intéressant, croire. C'est-à-dire que finalement, dans les deux cas, on est dans le domaine de la croyance. Ni les médecins dits scientifiques, ni les Français dits non scientifiques, finalement, communient dans une sorte de croyance. Alors, inverse, n'empêche que c'est une croyance. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'imaginaire. Pour les uns, c'est j'ai besoin de dire que c'est pas bien, et pour les autres, j'ai besoin de me dire que c'est bien. Et il y a derrière, je crois vraiment, à la fois un rapport aux toutes ces questions d'écologie, de nature, qui fait qu'aujourd'hui, pour une partie de la population, si c'est naturel, c'est que c'est bien. Si c'est chimique, c'est que c'est pas bien. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. C'est que ça, c'est dans les représentations. C'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a une deuxième raison qu'on peut largement regretter, c'est que plus ça va, moins une grande partie de la population a confiance dans la science d'une manière générale. Et puis, troisième élément, c'est aussi que ces pratiques-là, c'est aussi pour ça que ça nous avait intéressé de publier ce bouquin, c'est que c'est aussi la recherche par des gens qui sont souvent infantilisés, d'essayer de retrouver du pouvoir d'agir. On me dit qu'il faut faire comme ça, ça marche ou ça marche pas. Je veux essayer moi-même d'essayer de trouver aussi des pistes. Et trouver des pistes, c'est peut-être aussi une partie du soin. Parce que se dire, je peux être acteur, je ne suis pas seulement passif devant la maladie, devant ce qu'on me dit, c'est aussi une manière sans doute de retrouver de l'estime de soi et de se dire, j'ai peut-être une chance aussi, en me battant moi-même, de trouver une solution.
Docteur Patrick Géniès.
C'est vrai que cette approche-là est intéressante dans la mesure où les Américains donnent le terme de « empowerment », c'est-à-dire retrouver du pouvoir chez le patient pour s'auto-guérir. Alors c'est plus que le placebo, c'est de canaliser les forces positives au détriment des forces négatives qui impactent la guérison. Et là, bon, moi je classerais, pour pas être dichotomisé, je classerais en trois types de soins. Les soins scientifiquement prouvés, validés par l'évidence, base médecine, qui se discutent pas, chirurgie, médicaments, certains médicaments. Deuxièmement, un groupe des médecines de relations. Relations, c'est-à-dire psychothérapie, soutien, écoute, psychanalyse même. Et troisième groupe, alors c'est pas péjoratif, les groupes des thérapies symboliquement opérantes ou à forte composante symbolique. Et pour moi, c'est vraiment pas négatif. C'est une canalisation à la fois de l'hypnose, du placebo, de l'échange. Mais canaliser, ça veut dire aussi qu'il faut les organiser, il faut les borner.
Oui, oui, c'est pourquoi pas. c'est assez
oui,
joli.
Mais c'est une façon de façon de catégoriser les choses. Oui. Après sur le sociologue là qui vient de dire comme que qu'il y avait une dichotomie, qu'en fait il y avait des médecins qui croyaient en la science, c'est pas aussi simple que ça, je trouve. Après, c'est vrai qu'on constate aussi sur les réseaux sociaux qu'on voit beaucoup de croyances de type la nature est bonne et la science est mauvaise et la chimie est mauvaise.
Oui, alors au-delà de ça, au-delà même de la pratique, et là je vais rebondir sur la question de l'analyse qualitative, ça permet d'isoler certains facteurs à l'origine de l'efficacité finalement, comme par exemple le sentiment d'autonomie, de contrôle, ça a été évoqué, le cadre apaisant de certaines pratiques, un ensemble de croyances sécurisantes aussi qui peuvent agir sur le sentiment de mieux-être ou la dimension encore groupale de certaines de ces pratiques qui fait qu'on va se sentir plus soutenu, etc., et avoir un effet finalement au-delà de... pour ces pratiques.
On verra dans quelques instants comment évaluer ces médecines complémentaires alternatives et puis surtout comment détecter les charlatans et les pratiques sectaires. Il est temps de retrouver la chronique de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Ben voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu.
Oui, j'ai essayé de réfléchir à cette histoire de médecine complémentaire et ça m'a donné envie de d'écrire une déclaration d'amitié à un certain type de patients et de patientes que j'ai eu envie de regrouper sous le nom de Madame Soledad. Chère Madame Soledad, tu es peut-être dans ta voiture en train d'écouter ça et j'avais envie de te parler de toi. Comment tu vas ? C'est que, tu vois, je m'inquiète un peu. Je sais que tu as mal partout, tout le temps, les os, le ventre, le cœur, la tête, et le matin se lever, c'est horrible, horrible, docteur. Tu viens 2-3 fois par mois, tu prends de la levure de bière pour tes cheveux, de la spiruline pour la fatigue, du magnésium pour tes tremblements, des extraits de vigne rouge pour te fouetter les sangs, de la valériane pour lisser ton sommeil. Mais moi, je sais bien que tu n'es pas condamné, que tu as juste mal partout, partout. D'ailleurs, tu me le dis ouvertement, toi, que c'est dans ta tête. Mais moi, Madame Soledad, je pense que c'est dans le cœur, car tu as besoin qu'on te regarde, parce que personne ne te regarde jamais, et que tu as besoin qu'on t'écoute, car personne ne t'écoute jamais. Ni ton mari, ni tes enfants, et quand tu parles, et quand tu sais que tu te sens écouté, je vois bien, moi, chère Madame Soledad, que tu reprends des couleurs. Tu te redresses bien droite, comme si parler et être écouté était une eau versée sur la terre de ce bambou avachi qui est devenu ton dos à force d'indifférence, de sacrifices pour les autres, de linge repassé sans un merci, de petites chaussettes sales ramassées, d'absence de tendresse, d'absence de caresses. Tu prends des extraits de curcuma parce que tu ne veux pas mourir du cancer comme ta mère, du cartilage de requin en poudre pour ton arthrose, de la lutéine pour tes yeux, de la vitamine D commandée sur un site chinois pour les os. Eh bien, je t'aime bien, moi, Madame Soledad, je veux dire, on a tous en nous un petit quelque chose de Madame Soledad. Tu as mal partout, au corps, au cœur et à l'univers tout entier. Tu as besoin de parler, juste parler. Tu as besoin d'être écouté, juste écouté. Tu as besoin que quelqu'un te regarde et te dise « Vous existez, Madame Soledad. Vos peines existent, votre douleur existe, tout cela existe et vous avez le droit d'avoir mal. » Mal au corps, au cœur et à l'univers tout entier, et à la vie qui va sans vous, la vie qui passe sans vous, la vie qui n'est pas celle que vous espériez quand vous aviez 16 ans avec cet homme qui a changé, qui ne ressemble plus vraiment au beau jeune homme qui vous attendait à la sortie des cours, la vie qui s'est mise peu à peu à vous ignorer, la vie qui vous a oublié, et nous les les médecins, on ne peut rien faire si ce n'est vous écouter, parler de ces os, tous ces os qui vous font mal, de ce corps qui vous fait mal, mal jusqu'au cœur, et cette existence qui pèse trop pour rien, mais pour trop de monde. Et je suis sûr, Madame Soledad, que l'industrie pharmaceutique et non pharmaceutique vendrait beaucoup moins de valériane, de magnésium, d'extrait de curcuma, de lutéine et d'autres poudres à base de lait de pingouin si on savait être plus attentifs les uns aux autres, Madame Soledad. Parce que c'est dur de s'avouer qu'on ne s'aime pas, ou qu'on n'aime pas, ou plus sa vie, de s'avouer que c'est pas ce, comme ça que ça devait tourner, qu'on a 20 ans qu'une fois et que pour toi, Madame Soledad, ben c'est déjà fait, déjà passé, et bien que reste-t-il? Aller chez son médecin, parler, être écouté. Alors vas-y Madame Soledad, je t'écoute. Eh bien installe-toi, voilà, ce n'est pas moi qui parle, c'est moi qui t'écoute.
La chronique de Soledad Beaulieu, à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Allez, pour ou contre les médecines complémentaires et alternatives, n'hésitez pas à participer au débat au 01 45 24 7000.
Je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit tu croises le bonheur, si vite arrivé, si vite reparti. Happy. Je bouge à la souris, cours plus après le bonheur. Quand tu le devant toi, que tu souris. Voilà ma solitaire à pied. Absence. La vie m'apprend et je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois.
Mathieu Chédid d'interpréter Thérapie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
11h moins le quart, débat ce matin sur les médecines complémentaires alternatives. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 avec nous, Louise. Bienvenue, Louise.
Bonjour.
Alors, quelle est votre position sur notre débat?
Alors, je viens juste d'écouter la petite chronique sur Madame Soledad et j'ai juste envie de réagir d'abord là-dessus. Pourquoi ne pas proposer que Madame Soledad d'avoir un psy?
Il faut pouvoir payer le psy.
Effectivement, c'est un métier. C'est un métier.
Alors Soledad, ouais. quelle est votre position par rapport
Alors,
à notre sujet?
Ma position, en fait, c'est que il y a pas de bonne ou de mauvaise médecine. En fait, je pense qu'il y a des charlatans dans les deux, ou en tout cas des personnes qui sont en médecine générale et qui ne prennent pas du tout le côté émotif et qui est nécessaire en fait chez le patient qui se sent mal et du coup qui est dans une détresse psychologique potentiellement. Et ce que moi je vais pouvoir trouver dans des médecines complémentaires, en fait, c'est une écoute comme vous l'aviez dit précédemment, et aussi un point de vue sur la généralité du corps, en fait. C'est pas seulement localisé sur l'endroit où la douleur se trouve, mais il y a vraiment une recherche sur sur la globalité du corps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, me manque régulièrement. Donc, je vais voir des médecins généraux, mais je vais aussi chercher dans les médecines complémentaires quand je n'arrive pas à trouver des solutions qui me suffisent pour moi. Et j'ai l'exemple d'un ami qui a eu pendant très longtemps des énormes problèmes aux hanches. La médecine générale en était arrivée à lui dire « bon, bah, on va vous faire des injections ». Et en fait, cet ami a rencontré une posturologue. Et cette posturologue, en quelques séances, en regardant comment il marchait, a pu lui proposer des exercices qui lui ont permis de rétablir ses problèmes. Du coup, je pense que il n'y a pas, enfin voilà, c'est, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs, et que ça correspond à certains besoins. Et moi, ce qui me manque beaucoup dans la médecine en général, c'est une réelle orientation vers des.
Qu'est-ce que vous utilisez, Louise, voilà, comme médecine complémentaire, Louise, à titre personnel, qu'est-ce que vous utilisez comme médecine complémentaire?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est de la complémentaire. Je vais voir de l'ostéopathie. Et ce qui marche beaucoup pour moi, mais en fait peut-être qui ne marche pas pour les autres, c'est la micro-kiné.
Docteur Patrick Gignès.
Et oui, le témoignage de Louise était très intéressant parce que peut-être pour choisir ces médecins-là, il faudrait que le médecin généraliste ait ce petit réseau autour pour canaliser les bons professionnels, les compétents. Alors, il est évident que, oui, on peut faire la posturologie, des fois deux semelles, une semelle permet de corriger quelque chose. Mais derrière, il y a eu aussi une structure de personnalité, une structure corporelle. Alors, parfois, le podologue ne verra que l'aspect équilibre. Alors, c'est bien si vous avez trouvé la bonne orientation par hasard. Mais s'il se cache autre chose, un phénomène plus complexe, il faut retourner au généraliste pour éviter une erreur. Ça, c'est important.
Docteur Mathieu Van Dessel.
La grande hantise, c'est de passer à côté d'une maladie de système, une maladie orpheline, une maladie qui fait des douleurs partout dans le corps et qu'on catégoriserait à tort comme psychologique. Il y a jusqu'au dans les années 2000, l'ulcère de l'estomac était considéré comme une maladie psychologique, jusqu'à ce qu'on découvre Helicobacter pylori comme une bactérie.
Professeur Laurence Verneuil, merci beaucoup à Louise d'être intervenue. Comment repérer les pratiques sectaires, dangereuses, charlatanes? Comment on s'y prend?
Alors là, moi, je n'ai pas vraiment la réponse, mais ce que je sais, c'est que en effet, il faut une évaluation scientifique et que, en effet, ça ne passe pas, à mon sens, par la médecine basée par les preuves.
Véronique Suissa.
C'est très compliqué parce qu'il faut partir de la base, c'est-à-dire des praticiens. Et le problème actuellement, c'est que pour une même pratique, on a des niveaux très hétérogènes de formation. Il y a des professionnels en hypnose, on parlait de l'hypnose tout à l'heure, qui sont formés en plusieurs années, des médecins qui vont dispenser l'hypnose, et puis le tout venant qui va être formé en l'espace d'un week-end. Sauf que le tout venant qui va recevoir une personne fragilisée, là, on est déjà dans des risques. Donc il faut pouvoir explorer aussi, finalement, aussi les croyances des praticiens, leurs fondements théoriques sur lesquels ils s'appuient, les motivations, est-ce qu'ils veulent guérir, est-ce qu'ils veulent accompagner, soutenir moralement, quelle est l'attente du patient, voilà, le caractère financier aussi parfois exorbitant, la notion. Une petite anecdote, j'ai rencontré moi récemment une praticienne qui est venue me voir à l'avant-première du livre et qui m'a dit, la façon dont elle est formée de manière complètement ésotérique, je serais incapable de vous restituer ces fondements théoriques, et en me disant, voilà, moi je guéris des personnes qui sont atteintes de cancer et qui ne se soignent pas par des traitements curatifs, et si elles sont en vie, c'est grâce à moi et mes protocoles. Ça, c'est absolument dangereux et c'est à dénoncer.
Oui. Patrick Gignès.
Vraiment, pour le patient qui vient demander quelque chose d'un conseil, il faut des gens pas chers. Enfin, dans la médecine complémentaire, pas trop chers. Quand on voit des choses à 80, 100, 150 euros, sans facture et sans remboursement, je trouve que c'est de l'arnaque.
Et puis quand on...
Et pas trop long aussi.
Et puis quand on prétend vous soigner justement une maladie grave comme le sida, le cancer, ou la sclérose en bloc, ou
le paludisme, comme l'homéopathie sans frontières,
grâce à des tisanes, ou grâce à l'hypnose, il faut fuir évidemment, Mathieu Van Dessel.
Oui, mais tout à fait d'accord avec tout ça.
Oui, juste une remarque sur en effet ces garde-fous. Je crois que le fait d'intégrer justement un enseignement sur les médecines complémentaires dans les facultés de médecine, ça va donner aux médecins généralistes et aux médecins en général la capacité d'orienter correctement les patients.
Sur l'effet placebo, oui, il faut que ce soit enseigné. L'effet placebo doit être enseigné.
Mais
par contre,
je ne parle pas de l'effet placebo.
Par contre, il y a 400 médecines complémentaires alternatives. On va toutes les enseigner à l'université.
Mais c'est pas la question.
Je on ne voit pas toutes les anciennes universités. Il faut renseigner le principe du placebo.
Le manque d'orientation des médecins vers ces pratiques contribue aux risques et aux dérives.
Absolument.
Des patients, finalement, le disent. Hein. Moi, je n'ai pas été orientée. J'ai cherché sur Internet. Mm. Et sur Internet, j'ai trouvé telle pratique et je suis tombée sur tel praticien, etc., etc.
Il faut canaliser parce que ça existera toujours. Et il y aura toujours une frange qui va toujours chercher la magie extrémiste. Donc ça, c'est du domaine de pathologie sociologique. Hein. Donc chaque patient, on est tous à un moment de notre vie peut-être à rechercher quelque chose de totalement ésotérique. C'est un danger qu'on a en nous aussi. Donc il faut en effet canaliser peut-être par un généraliste qui sait choisir, aider, coordonner.
L'acupuncture a un champ d'action extrêmement large. Pour arrêter de fumer, traiter l'acné ou encore perdre du poids.
On s'est aperçu que quand on enfonçait des aiguilles, ça, que ce soit sur les points d'acupuncture ou non, ça avait le même effet.
Oui, il y a de très belles études scientifiques qui montrent une efficacité de l'acupuncture. Elle amène un soulagement à certains patients qui ont mal au dos, qui ont mal à la tête de façon extrêmement régulière, ou pour les nausées, les vomissements, chez des patients en chimiothérapie par exemple. Il y en a très peu pour lesquels l'acupuncture fait mieux que la médecine conventionnelle, mais il y a les lombalgies chroniques par exemple.
Un extrait des Idées claires, un programme de France Culture et de France Info en août 2019. Et on vient d'entendre Caroline Barry, chercheuse à l'INSERM. Véronique Suissa, au cœur du débat autour des médecines complémentaires alternatives, une interrogation sur la preuve de leur efficacité. Comment appliquer les preuves scientifiques que l'on applique pour un médicament à l'hypnose ou à la méditation de pleine conscience?
Mais en même temps, là, je vais rejoindre le professeur Verneuil. Qu'est-ce qu'on appelle preuve scientifique? Et pourquoi, aujourd'hui, on ne considère pas la perception même des personnes comme une preuve scientifique?
Professeur Laurence Verneuil, la médecine moderne, c'est une médecine basée sur les preuves. En anglais, vous l'avez dit, evidence-based medicine. Tant mieux pour les patients.
Oui, non, mais ça, moi, je ne remets absolument pas en cause la médecine basée sur les preuves. Et ça a été des progrès immense. Simplement, je dis qu'à l'aune d'une médecine centrée sur le patient et personnalisée, on doit en être dans un pluralisme des paradigmes et que la recherche qualitative, en effet, s'intéresse, évalue de manière rigoureuse et scientifique l'expérience vécue des patients et qu'elle peut être tout à fait en articulation avec des études des études quantitatives qui vont permettre de donner des indicateurs pertinents d'efficacité. Concrètement, on peut poser n'importe quelle question à un patient ou à un médecin en recherche qualitative. Concrètement, l'hypnose a été évaluée par l'evidence-based medicine sur l'accouchement et le travail avant l'accouchement. Ça donne, non, en effet, l'hypnose n'a pas d'effet parce que les indicateurs pertinents étaient le nombre de péridurales et compagnie. On fait une étude qualitative sur la perception des patientes de l'hypnose dans le travail et l'accouchement et en effet on sort que le travail et l'accouchement se sont beaucoup mieux passés et qu'il n'y a pas eu autant d'effets douloureux.
Ça permet de mieux comprendre les bénéfices et ça permet aussi de mieux comprendre les risques et les dérives. Et ça aussi c'est important, de comprendre les processus qui sont à l'œuvre.
Patrick Géniès.
Oui, Jean de La Fontaine disait « La douleur est plus faible que la plainte est plus faible que la demande et la demande est plus faible que le besoin ». C'est assez fort, ça. C'est-à-dire que si on se touche qu'à la douleur physique, qu'un élément physique, on perd une grande partie de l'aspect anthropologique, que Hippocrate avait jamais oublié. C'est-à-dire qu'Hippocrate et la médecine scientifique, c'est pas réduire un paramètre. C'est trouver tous les matrices qui causent les maladies.
Absolument. Et je suis tout à fait d'accord. Et pour rebondir sur ce que vous dites, dans sa structuration, il faut revenir quand même au fondement. La médecine basée sur les preuves, qui date des années 80, qui a été liée à un mouvement, en effet, de rationalisation de la médecine, reposait sur une triangulation. Les données externes, en effet, de la recherche, les essais contrôlés randomisés, l'expertise du médecin et les préférences du patient. Sauf que finalement, dans l'évolution, les préférences du patient n'ont jamais été prises en compte.
Alors si, je veux dire, à chaque fois, quand on dialogue avec le patient pour savoir comment il ressent son traitement, on prend en compte, de nos jours, en tout cas, on prend en compte.
Non, mais pas en science. Enfin, vous avez déjà fait des protocoles, parce que dans ce cas-là, vous ne demandez pas à votre patient, quand vous faites un essai clinique randomisé...
Alors si, il y a des protocoles, une intention de traiter, Bah, en fait, on suit les patients, et quand les patients arrêtent de prendre leur traitement, c'est que le traitement ne leur a pas.
Mais non, mais en intention de traiter, ça veut pas dire ça. L'intention de traiter est en fait un outil pour éviter les biais d'attrition, c'est-à-dire que on évite que des patients perdus de vue soient en effet inclus dans la comptabilité statistique. C'est ça, en intention
Patrick
de traiter.
Patrick Génies, pour la mesure du succès, il faut parfois sortir de notre modèle médical. Dans une usine Renault, pour voir si une voiture est mieux construite par une chaîne X et une chaîne Y, on ne regarde pas si le boulon de la troisième boîte de vitesse est d'un côté ou de l'autre. On fait des cercles de qualité. C'est-à-dire à chaque étape de la prise en charge, on dit qu'est-ce qu'on peut améliorer par un individu qui est sur la chaîne et qui dit là, ça pourrait être mieux. C'est un peu ce qu'en médecine, on a oublié de faire, en fait, de voir à chaque étape. Alors bien sûr, il faut canaliser cette nouvelle façon de penser.
Absolument.
Bonjour Daphné, on termine avec vous. Nous écoutons votre témoignage.
Bonjour.
Bonjour. Nous écoutons votre témoignage, Daphné.
Alors, j'ai voulu témoigner parce que j'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans et que dans le cadre de ce cancer et pour m'aider en fait avec les traitements lourds, j'ai bénéficié d'un accompagnement dans une association qui s'appelle l'association Ressources. Qui est dans le sud de la France, qui a été créée par un oncologue, un professeur de médecine, docteur Jean-Louis Muisset. Et dans cette association, on bénéficie de soins de support, c'est-à-dire que à titre individuel ou pour certains aussi à titre collectif, on peut bénéficier de différentes aides. Donc moi notamment, j'ai découvert la médecine chinoise et l'acupuncture, mais bon, comme on est en chimio, on fait principalement de la digipression, parce que avec les aiguilles et la baisse de l'immunité pendant la chimio, on évite. Mais ça m'a énormément aidée. Ça m'a aidé donc à supporter les traitements lourds, à n'avoir quasiment aucune nausée pendant l'intégralité de mes traitements. Ça aide aussi, ça m'a aidé à ne pas ressentir ou peu de douleurs de type neuropathique, hein, qui sont des conséquences aussi de la chimio que j'ai eu à avoir.
Merci beaucoup Daphné, merci beaucoup pour votre témoignage.
Bonjour Daphné, je vais rebondir parce que je connais bien Jean-Loup Mousset qui a participé à cet ouvrage. C'est très intéressant ce que dit Daphné, parce que finalement on est sur d'autres dispositifs. Le centre ressources, c'est un centre de soins non médicalisé qui propose un ensemble de thérapies non médicamenteuses et complémentaires. Et finalement, ça pose la question de ces pratiques doivent-elles intégrées dans les centres de soins ou dans des dispositifs externes?
Ce sera l'objet d'une nouvelle émission. Merci à tous. Pour aller plus loin, vous pouvez lire « Médecine complémentaire et alternative pour ou contre », publié chez Michelon, sous votre direction, Véronique Suissa. Merci Laurence Verneuil, Patrick Géniès et Mathieu Van Dessel. Vous pouvez continuer à débattre avec élégance et sans invective, comme ce fut le cas ce matin, sur la page Facebook de Grand Mal Vous Fasse. Demain, comment ne plus être le meilleur ennemi de soi-même? Comment devenir moins dur avec soi? Comment devenir moins coupable en se chargeant de tous les maux? Éléments de réponse demain au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à témoigner.